Kisangani sur 94,8.
À Kisangani, Boyoma, les Boyomés vivent actuellement au rythme d'un nombre croissant d'enfants accompagnateurs de personnes adultes non-voyants. Ce phénomène s'étend dans presque toute la ville à telle enceinte que les associations d'encadrement des enfants crient à la violation des droits des enfants. On va faire le point sur cette question avec Anselme Mansoa qui sera bientôt en ligne, je crois. Dans quelques secondes, il sera en ligne. Voilà, on me fait signe qu'il est déjà en ligne. Bonjour Anselme.
Bonjour Nikon Daka, bonjour à tous nos auditeurs.
Alors, j'espère que vous êtes bien renseigné, que vous pourrez nous raconter peut-être en quelques mots, hein, que font exactement ces enfants dont le métier consiste à accompagner les personnes non-voyantes. Décrivez-nous un peu ce métier d'accompagnateur de personnes non-voyantes.
De façon brève, Nikon Ngaka, c'est sous un soleil accablant que ces enfants traînent derrière eux ces aveugles, moins propres et souvent très fatigués avec une mine pas d'une bonne santé. Ces enfants sont contents d'amener leurs protégés dans des endroits de vive activité commerciale. Et ceci au risque même de croiser un accident. La plupart de ces enfants n'ont même pas 15 ans. Dido Bailongandi, 12 ans d'âge, encadré du centre Child Right, raconte ce qu'il faisait pendant qu'il était encore accompagnateur d'un aveugle. Suivons-le.
Oui, on a suivi donc le point de vue d'un enfant qui est âgé de 12 ans. Il s'appelle Dido Baelongandi. Voilà, je crois que je n'ai pas massacré son nom, Anselme. Mais on se rend compte, Anselme, que s'il y a ce nouveau métier qui s'est créé dans la ville de Kisangani, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes non-voyantes maintenant dans cette ville. Alors, on aimerait savoir, Anselme, si je ne me trompe pas, quelle est la cause de l'accroissement du nombre d'aveugles dans la ville de Kisangani?
Eh bien, Nicole, le nombre de ces accompagnateurs ne font qu'accroître depuis la fin des guerres dites de libération. La plupart sont des aveugles de naissance, d'autres le sont devenus suite aux maladies et d'autres encore le sont suite aux guerres, comme le dit M. Thomas Ferouzi Kimina, aveugle lui-même et chef de bureau à la division des affaires sociales et responsable de l'Institut national pour aveugles, bureau de reclassement. Suivons M. Ferouzi.
C'est à cause de tous ces troubles, toutes ces guerres qui ont fait que le nombre de personnes vivant avec un handicap puisse s'augmenter. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit dans toutes mes déclarations que les gens qui ont rendu les autres, les infirmes, des handicapés, des aveugles, ces gens-là vivent mieux, ils vous mangent trois fois par jour. Mais actuellement, ces aveugles vous mangent combien de fois? Zéro fois. Et ils n'ont pas demandé de devenir aveugles. On les a fabriqués par la force. Quitte à ces gens-là qui nous ont fabriqués par la force, au niveau du Parlement, je dis qu'on trouve quand même un moyen de coopter ces personnes au niveau du Parlement, puisque le Parlement a pour mission de légiférer, de contrôler. Si ces aveugles sont là-bas, ils doivent défendre leurs problèmes, afin qu'à partir de là-bas, nous allons nous défendre nos problèmes, nous allons nous époumoner avec eux. Aujourd'hui, ce Parlement, ceux qui sont là-bas, il n'y a aucun handicapé, il n'y a aucun aveugle. Toutes les fois, lorsqu'ils prennent les paroles là-bas, il n'y a personne qui parle pour les personnes vivant avec un handicap.
Oui, là c'était M. Thomas Ferouzi Kimina, vous l'avez dit, c'est un non-voyant et puis il est aussi chef de bureau à la division des affaires sociales et responsable de l'Institut national pour aveugles, bureau de reclassement Anselme. Mais une autre précision s'avère quand même nécessaire, Anselme Mansoa. Est-ce que jusque-là il y a des réactions parmi, je dirais, les habitants de la ville de Kisangani à propos de ce phénomène nouveau des non-voyants à Kisangani?
Nicole, ce phénomène des enfants accompagnateurs des aveugles est en train de révolter d'aucuns à Kisangani. Pour certains, c'est purement la violation grave des droits des enfants. Écoutons tour à tour M. Vital Balayo et professeur Talala, respectivement encadreur social au centre Child Right et responsable du centre d'intervention psychosociale à Kisangani.
En tout cas, pour moi, je constate que c'est une violation grave des droits de l'enfant. D'abord, ces enfants n'étudient pas et ils ne font presque rien. Il faut qu'accompagner ces aveugles-là et ces aveugles qui sont mendiants. Nous demandons l'appui de l'autorité. Il ne faut pas laisser ces enfants aveugles comme ça et trimballer les aveugles. Sinon, ça risque de tuer toute une population. Nous avons quelques enfants ici qui accompagnent les aveugles. Alors, nous avons plaidé pour ces enfants-là. Nous avons récupéré ces enfants-là. Nous les gardons ici. Ce sont les membres d'autres familles, donc des grands-parents, hein, des tantes, qui ont pris ces enfants-là en charge. Maintenant, ces parents-là, non, ils continuent à aller chercher ces enfants-là pour venir les accompagner dans la rue.
Ce sont des enfants dont les droits sont massivement bafoués. Vous avez particulièrement le droit à jouer. Et ces enfants, du fait qu'ils accompagnent les aveugles, eh bien, ils ne peuvent pas jouer. C'est déjà la première violation de leurs droits. Autre violation de droit, c'est le droit à l'éducation. Ce sont les enfants qui sont sur la rue et qui ne vont pas à l'école et par conséquent, leur avenir est complètement compromis. Et je me demande même, sur le plan alimentaire, je me demande si vraiment ces enfants ont la nutrition convenable, étant donné qu'ils doivent suivre les aveugles durant toute la journée et à travers toutes les rues.
Oui, ça c'était des réactions de deux spécialistes hein, qui s'occupent surtout des enfants. Mais nous savons, Anselme, qu'ailleurs au Congo, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'enfants de la rue. À Kisangani, il y a en plus de ce phénomène d'enfants de la rue, des enfants accompagnateurs des non-voyants. C'est vrai, ces enfants sont obligés d'accompagner ces personnes non-voyantes au lieu d'aller à l'école. Alors, on aimerait savoir, est-ce que ce métier, pour ces enfants que vous avez eu à rencontrer, est-ce que ce métier leur plaît? Est-ce que c'est un métier qui est vraiment à leur avantage? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement?
Moi, je pense que c'est un métier qui ne plaît pas tellement aux enfants. Si je dis pas tellement, c'est-à-dire il y a des ceux-là qui aiment accompagner leurs membres de famille, parents ou grands-parents, pour attraper quelque chose, mais certains le font par de force, c'est-à-dire le font de force, parce que nous avons rencontré certains enfants qui nous ont dit que bon, je le fais parce que c'est maman ou papa mutoatindingana sala yango, sinon je n'aurais pas soit à manger, soit une culotte comme ça, je n'en aurais pas. Mm-hmm. Mais vraiment, c'est une soumission des enfants aux travaux durs et lourds, avec des conséquences fâcheuses, telles que le souligne le professeur Kalala, chef ou bien responsable du centre d'intervention psychosociale, suivant le professeur Kalala.
Un enfant qui accompagne les aveugles est soumis à un travail très dur. Vous vous rendez compte, il doit marcher combien de kilomètres par jour pour accompagner ces personnes-là. Donc moi, je considère qu'il s'agit là d'un travail dur, un travail lourd, auquel un enfant ne peut pas être soumis. Donc, tout son avenir est complètement compromis sur tous les plans. Eh bien, comme vous savez, les travaux durs, quand un enfant est soumis à des travaux durs, ça compromet bien sûr son développement physique, ça compromet son développement intellectuel, ça compromet son développement social. Et comme je vous dis, surtout sur le plan scolaire, l'avenir est complètement bouché.
C'est vrai, mais il est quand même bon de savoir parce que bon, j'imagine que comme tout le monde réagit négativement sur ce phénomène nouveau à Kisangani, j'imagine que l'autorité provinciale non plus n'apprécie pas du tout cette pratique. Mais qu'est-ce qu'elle fait exactement, Anselme, pour justement éviter que les enfants continuent à accompagner des personnes non-voyantes?
Actuellement, l'État ne s'occupe pas tellement de ces aveugles adultes et certaines personnes averties craignent pour l'avenir de ces enfants accompagnateurs. Ferouzi Kimina et Vital Balayo, une fois de plus, reviennent et donnent leur position.
Nante, je suis aussi tiqué à la fois. Tu sais que mon frère, dans ces pays, si on avait une bonne politique, si l'État congolais allait définir une politique pour mieux encadrer ces catégories de personnes, tout ceci n'allait pas arriver, c'est-à-dire les aveugles n'allaient pas prendre leurs enfants et aller de gauche à droite avec eux. C'est tout simplement parce qu'ils sont clochardisés au trans, la vie ne va pas. Ils sont obligé de prendre ses enfants et de les accompagner pour chercher la paix quotidienne. C'est ainsi que je voudrais cependant dire à nos frères qui ont cette habitude de trouver un palliatif, lesquels cherchez peut-être un membre de famille, cherchez peut-être quelqu'un de la bonne volonté pour vous accompagner et faire étudier les enfants, puisque moi-même, je suis ce modèle-là. Mes enfants sont en train d'étudier. Au moment où je vous parle ici, à côté de moi, à ma gauche, vous voyez que j'ai mon guide. Hein? C'est une personne âgée comme moi. Et c'est ce monsieur que je suis en train d'utiliser chaque fois.
En tout cas, c'est une crainte grave. Nous risquons de perdre même toute une population. Parce que le nombre d'abord des aveugles augmente. Et puis le nombre de ces enfants doivent nécessairement augmenter. Et quand ces enfants vont abandonner ces aveugles-là, ils ne vont pas rentrer à la maison. Ils vont continuer à mendier comme ces aveugles-là. Alors nous avons vraiment une crainte. Mais parce qu'ils ont continué à... Ils ont suivi les aveugles. Ils vont devenir aveugles par apparence. Malgré qu'ils voient, mais ils vont faire tout ce que les aveugles faisaient. Parce qu'ils sont habitués à faire ça. Un danger tellement social. C'est une violation grave des droits de l'enfant.
Violation grave des droits de l'enfant. Ces enfants risquent de devenir aveugles, apparemment. Ça, c'est ce que nous a dit M. Ferouzi Kimina et Vital Balayo. Mais Manselme, on aimerait savoir quand même autre chose. J'imagine que, c'est vrai, vous avez dit, l'autorité provinciale ne fait absolument rien pour envoyer ses enfants à l'école et ne pas accepter qu'ils traînent dans les rues en train d'accompagner des personnes, des non-voyants. Mais il y a quand même des personnes averties qui envisagent, je crois, de faire quelque chose, n'est-ce pas, pour combattre cette pratique.
Oui, Nicole, au niveau des réseaux des ONG, des protections des enfants, des échanges sont en cours et des projets s'envisagent pour pallier au problème des enfants accompagnateurs des aveugles. Pour elles, seule la prise en charge des aveugles adultes auront à libérer ces enfants de cette emprise. Professeur Kalala, une fois de plus.
Pour ce qui concerne les aveugles adultes, moi je pense que le travail le plus important qu'on devait faire, c'est une rééducation. Rééduquer ces personnes pour qu'ils puissent se guider. On connaît des aveugles dans d'autres pays qui marchent eux-mêmes avec la canne blanche, etc. Si on éduque l'aveugle, il peut facilement se guider sans obliger une autre personne humaine à rester tout le temps avec lui. Moi, je pense que l'État devra prendre à sa charge les personnes qui ne parviennent pas à se prendre en charge. Mais attention, les personnes handicapées ne sont pas une bouteille vide. Ce sont des personnes qui ont des potentialités, qui ont des capacités. Il faut les aider à développer leurs capacités, leurs potentialités, pour qu'ils puissent se livrer à un travail rentable. Et cela, c'est tout à fait possible. Il y a les travaux que les aveugles peuvent très, très bien faire. Et s'il y a un bon encadrement, un aveugle peut trouver un job où il peut honorablement gagner sa vie au lieu de mendier tout au long de la journée.
Voilà, merci beaucoup Anselme. Je crois qu'on aura beaucoup plus de détails avec l'invité. C'est M. Pierre Mouaka, qui est le président du réseau des droits des enfants de la province orientale. Rodepo, je crois qu'il est déjà avec vous là-bas à Kisangani.
Oui, il est à côté de moi ici, Nicole.
Voilà. Alors, je crois qu'il serait intéressant de lui passer le téléphone, de façon à ce qu'il puisse répondre directement à nos questions, hein?
Oui, je le passe tout de suite là.
Voilà. Je crois que c'est fait. Dans quelques secondes, voilà. OK. Monsieur Pierre Mouaka, je crois que vous êtes maintenant en ligne, hein?
Oui, je suis en ligne.
Voilà, je rappelle aux auditeurs que vous êtes le président du réseau des droits des enfants de la province orientale, Rodepo. Merci d'avoir accepté de répondre à toutes les questions concernant justement les droits des enfants accompagnateurs des non-voyants. Première question que nous vous posons, Monsieur Pierre Mouaka, c'est de savoir qu'est-ce que vous faites exactement à votre niveau pour tant soit peu, corriger cette erreur, peut-être soutenir ces enfants qui, mine de rien, sont obligés d'accompagner des non-voyants au lieu d'aller à l'école.
Merci beaucoup pour la question. Je voudrais, avant de répondre à cette question, vous dire que les enfants qui accompagnent les non-voyants rendent un service social et humanitaire à ces voyants-là. Mais en rendant ce service, ils compromettent leur avenir, comme les prédécesseurs venaient de le dire, car certains d'entre eux, à l'âge scolaire, passent leur journée à accompagner les aveugles au lieu de se retrouver à l'école. Dans notre réseau, ces enfants sont classés dans la commission des enfants socialement et ou économiquement exploités, au même titre que les vendeurs d'eau, les cireurs, ainsi de suite. Maintenant, le danger qui guette ces enfants est celui de les voir développer les mécanismes de la mendicité une fois les aveugles qu'ils conduisent même. Et ces mécanismes peuvent les conduire au vol, au vagabondage et à toute autre sorte d'actes répréhensibles.
Oui, tout ça on sait, mais la question est précise, M. Pierre Mouaka. Tout ça, Anselme nous l'a dit pendant l'entretien qu'on a eu avec lui. Mais nous, on aimerait savoir, parce que les auditeurs vous suivent partout au Congo, et ils aimeraient savoir ce que le Rodépôt fait exactement pour éviter justement que ces enfants n'aillent dans les rues pour accompagner des non-voyants.
J'y arrive, madame. C'est là où je voulais arriver. Pour mettre fin à cette situation, nous organisons des campagnes de sensibilisation pour que ces enfants-là puissent être reclassés au niveau scolaire. Et nous faisons aussi des plaidoyers auprès des services sociaux étatiques de prendre leurs responsabilités, de regrouper les aveugles dans les centres appropriés et de prendre soin d'eux. En ces lieux, ils peuvent suivre une formation pour qu'ils prennent en charge et qu'ils soient utiles à la société au lieu de trimballer les enfants toute la journée. Par exemple, avant la deuxième guerre de rébellion, les aveugles de l'orphelinat Marie-Antoinette tissaient des beaux paniers en liane et qui se vendaient comme des petits pains. On peut par exemple encadrer ces aveugles dans des différents centres et leur apprendre une certaine formation, comme le professeur venait de dire ici. C'est ainsi que nous nous sommes investis auprès des autorités de la province, surtout au niveau de la division des affaires sociales, avec laquelle nous entretenons de très bonnes relations pour que, en tout cas, ce phénomène puisse être jugulé au niveau de Kisangani.
Oui, mais à votre niveau, M. Pierre Mouaka, ne pouvez-vous pas, bon, vous avez dit que vous faites des plaidoyers, des conférences, tout ça, mais ne pouvez-vous pas aussi peut-être vous occuper directement de ces non-voyants, les encadrer vous-même? Est-ce que c'est faisable au niveau de votre ONG?
Bon, moi je suis président du réseau qui compose des ONG. Toutefois, nous savons qu'il y a une ONG, le centre Barkimé, qui se trouve au plateau Boyoma, qui s'occupe des non-voyants. Et cette ONG a déjà rendu un très bon service à ces voyants, à ces non-voyants jusqu'à aujourd'hui. C'est ça notre contribution.
Mais qu'est-ce que cette ONG a fait exactement pour soutenir ou encadrer ces non-voyants?
Cette ONG compte plusieurs non-voyants qui l'encadrent. Et qu'elle encadre plutôt, et qui jusqu'à aujourd'hui, ces non-voyants suivent une formation pour leur reclassement dans la vie sociale.
Ok. Vous pensez qu'aujourd'hui, bon, vous savez, il y a peut-être des non-voyants qui nous suivent à partir de Kisangani Boyoma et ils se disent, bon, nous aujourd'hui, c'est vrai, on pense à nous, mais qu'est-ce que nous pouvons attendre du réseau, du réseau des droits des enfants de la province orientale? Qu'est-ce que nous pouvons attendre exactement de toutes ces ONG qui, semble-t-il, tiennent compte de cette faiblesse que nous avons, c'est-à-dire le fait que nous ne voyons pas? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de vous aujourd'hui?
C'est justement ce que je venais de dire. Nous nous occupons d'eux parce que nous défendons les droits des enfants, les droits de l'homme, et nous ne pouvons pas accepter que nos compatriotes, nos semblables puissent demeurer dans une situation où ils doivent passer toute une journée pour avoir un morceau de pain. C'est ainsi que nous voulons. Nous faisons tout pour qu'ils soient formés, éduqués et que pour qu'ils puissent être utiles d'abord pour eux-mêmes et pour la société. Je venais de citer un exemple tout à l'heure où il y a quelques années, à l'orphelinat, on avait appris à ces non-voyants de tisser eux-mêmes les paniers à liane. Et ces paniers-là étaient vendus, en tout cas, comme des petits pains. C'était déjà une contribution pour la société.
Alors, aujourd'hui, il y a un auditeur qui a réagi, Monsieur Pierre Mouaka. Il dit, aujourd'hui, il nous a appelé à partir de Kalemie, il s'appelle Monsieur Tchakatumba. Il dit ceci, il dit, si ces enfants aujourd'hui ne vont plus à l'école et sont obligés d'accompagner leurs parents, c'est tout simplement parce que ces parents n'ont pas d'argent. Alors, pour arriver à vivre, ils sont obligés de mendier. Alors, lui pose la question de savoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'un non-voyant peut faire comme travail pour arriver à subvenir à ses besoins et peut-être aussi aux besoins de sa famille?
Mais le travail, il y en a beaucoup. Je venais et je répète encore que un non-voyant peut être utile à la société quand, par exemple, il peut apprendre à tisser des paniers. Et ces paniers-là qui peuvent être revendus pour qu'il puisse subvenir à ses besoins au lieu d'entraîner avec lui des enfants qui devraient plutôt être au niveau de l'école.
Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il n'y a pas que ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres propositions à faire. Il n'y a pas que ce travail qu'un envoyant peut faire, tisser des paniers. Il y a peut-être d'autres métiers aussi qu'ils peuvent exercer. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement, hormis le travail de tissage des paniers?
Bon, hormis ce travail-là, je crois que il y a beaucoup de travaux qu'ils peuvent effectuer ou exercer au niveau de leur milieu. Mais ça dépend du milieu. Par exemple, ici, je ne voyais que ce travail parce que c'est ce que j'ai vécu moi-même et j'ai acheté même les paniers de ces non-voyants-là qui ont intéressé presque toute la population. À part ça, on peut créer d'autres mécanismes au niveau des centres pour voir quel est le métier qui peut être utile et approprié à ces gens, à cette catégorie de personnes.
Voilà, alors j'invite tous ceux qui nous suivent, qui ont peut-être des propositions à nous faire sur ces non-voyants, c'est-à-dire peut-être qu'ils ont des propositions à faire en ce qui concerne le métier que peut exercer un non-voyant, qui n'hésite pas à appeler au 081-890-63-94 ou encore à nous écrire à l'adresse action@radiocapi.net pour nous faire leurs propositions. On va donc terminer avec vous, Monsieur Pierre Mouaka, pour savoir juste... À combien aujourd'hui est estimé le nombre des non-voyants dans la ville de Kisangani-Boyoma?
Bon, d'après les informations en notre possession, en tout cas, ils peuvent aller au-delà de 200. Parce que nous avons inventorié au niveau de l'orphelinat plus de 75 et au niveau des centres, une centaine.
Ok. Ça fait beaucoup, hein. Alors, pour vous, vous pensez que si on peut résoudre ce problème, ce serait comment? Pour éviter qu'à l'avenir, que les enfants n'accompagnent plus des non-voyants, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les envoyer, les obliger à aller à l'école?
Oui, certainement, parce que le Congo de demain sera ce qu'on aura fait des enfants aujourd'hui. Donc, je demande, ça pourrait être un message que je lance à tout le monde, que nous puissions tous nous investir dans les domaines qui permettent aux enfants, à un développement intégral de l'enfant. Il s'agit bien sûr de la santé, l'éducation, la protection légale et sociale, telle que recommandée par la Convention relative aux droits de l'enfant, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Constitution de la transition. Et ici, il ne faut pas oublier le rôle que doit jouer l'État. Il ne faut pas que l'État reste démissionnaire devant ses responsabilités. Parce que tous ces gens-là, s'ils étaient bien encadrés, comme l'a dit le professeur, je crois qu'ils ne pouvaient pas perdre le temps d'avoir des enfants pour les accompagner pendant toute la journée. Ils seraient quelque part où on allait s'y venir à leurs besoins. Okay. Et peut-être s'occuper d'autres choses.
Merci beaucoup, M. Pierre Mouaka. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes le président du réseau des droits des enfants de la province orientale. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Au revoir.
C'est moi qui vous remercie.
Pour que la paix ne soit pas qu'une idée.